Le choc des temporalités. De façon générale, il est essentiel lorsqu'on étudie la dynamique de la répartition des richesses de bien distinguer plusieurs temporalités. Dans le cadre de ce livre, nous nous intéressons avant tout aux évolutions de longues périodes, aux mouvements de fond, qui ne peuvent souvent s'apprécier que sur des périodes de 30 ou 40 années, voire davantage, comme le montre le processus de hausse structurelle du rapport capital-revenu à l'œuvre en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, qui est à l'œuvre depuis près de 70 ans et qu'il était impossible de déceler aussi nettement il y a encore 10 ou 20 ans, compte tenu de la superposition de diverses évolutions et aussi du manque de données disponibles. Mais cette focalisation sur la longue durée ne doit pas nous faire oublier qu'il existe toujours, par-delà les tendances longues, des mouvements plus courts, qui certes finissent souvent par se compenser, mais qui pour les acteurs qui les vivent apparaissent légitimement comme la réalité la plus prégnante de leur époque. Cela est d'autant plus vrai que ces mouvements courts peuvent parfois durer assez longtemps, 10, 15 ans, voire davantage, et donc prendre beaucoup de place à l'échelle d'une vie humaine. L'histoire des inégalités en France, de même d'ailleurs que dans les autres pays, est pleine de ces mouvements de court et moyen terme, et pas seulement au cours de la période particulièrement chaotique de l'entre-deux-guerres. Évoquons rapidement les principaux épisodes. Pendant chacune des deux guerres mondiales, on assiste à des phénomènes de compression des hiérarchies salariales, suivis pendant chacun des après-guerres, dans les années 1920 puis à la fin des années 40 et dans les années 1950-1960, de mouvements de reconstitution et d'élargissement des inégalités salariales. Il s'agit de mouvements de grande ampleur. La part des 10% des salariés les mieux payés dans la masse salariale totale baisse d'environ 5 points pendant chaque conflit qu'elle récupère ensuite. On observe ces mouvements pour les grilles de salaire de la fonction publique aussi bien que dans le secteur privé, et à chaque fois selon le scénario suivant, pendant les guerres, l'activité économique chute, l'inflation augmente, les salaires réels et le pouvoir d'achat se mettent à diminuer, et dans ce processus, les salaires les plus bas tendent généralement à être revalorisés et protégés de l'inflation un peu plus généreusement que les salaires les plus élevés, ce qui peut provoquer des changements importants de la répartition de la masse salariale si l'inflation est importante. Cette meilleure indexation des salaires bas et moyens peut s'expliquer par l'importance des perceptions de justice sociale et des normes d'équité au sein du salariat. On cherche à éviter une trop forte chute du pouvoir d'achat pour les plus modestes et on demande aux plus aisés d'attendre la fin du conflit avant d'obtenir une revalorisation complète. Cela joue clairement un rôle dans la fixation des grilles de salaire de fonctionnaires et il en va probablement de même, au moins en partie, dans le secteur privé. On peut aussi imaginer que la mobilisation dans les armées ou les camps de prisonniers d'une part importante de la main-d'œuvre jeune et peu qualifiée améliore pendant les guerres la position relative des bas et moyens salaires sur le marché du travail. En tout état de cause, ces mouvements de compression des inégalités salariales ont chaque fois été annulés dans les périodes d'après-guerre et on pourrait donc être tenté de les ignorer complètement. Pourtant, pour les personnes qui ont connu ces périodes, il est évident que ces épisodes ont été extrêmement marquants. En particulier, la question du redressement de la hiérarchie des salaires, pour le secteur public comme dans le privé, a fait partie dans les deux cas des dossiers politiques, sociaux et économiques les plus brûlants de l'après-guerre. Si l'on examine maintenant l'histoire des inégalités en France au cours de la période 1945-2010, on distingue très nettement trois phases. Les inégalités de revenus progressent fortement de 1945 à 1966-1967, la part du décile supérieur passe de moins de 30% du revenu national à environ 36-37%, puis diminue fortement de 1968 à 1982-1983. La part du décile supérieur retombe à tout juste 30%. Et enfin, les inégalités augmentent régulièrement depuis 1983, si bien que la part du décile supérieur atteint environ 33% dans les années 2000-2010. On retrouve approximativement les mêmes inflexions au niveau du centile supérieur et des inégalités salariales. Là encore, ces différentes phases se compensant plus ou moins, il est tentant de les ignorer et de se concentrer sur la relative stabilité à long terme au cours de la période 1945-2010. Et, de fait, si l'on s'intéresse uniquement aux évolutions de très longues périodes, le phénomène marquant en France au XXe siècle et la forte compression des inégalités de revenus entre 1914 et 1945, et la relative stabilité ensuite. En réalité, chacun de ces points de vue a sa légitimité et son importance, et il nous semble essentiel de parvenir à penser conjointement ces différentes temporalités. Le temps long d'une part, et le court et moyen terme d'autre part. Nous avons déjà abordé ce point lorsque nous avons étudié les évolutions du rapport capital-revenu et du partage capital-travail dans la deuxième partie, voir en particulier chapitre 6. Il est intéressant de noter que les mouvements du partage capital-travail et ceux de l'inégalité à l'intérieur des revenus du travail ont tendance à aller dans le même sens et à se renforcer mutuellement dans le court et moyen terme, mais pas nécessairement sur longue période. Par exemple, chacune des deux guerres mondiales se caractérise à la fois par une baisse de la part du capital dans le revenu national et du rapport capital-revenu, et par une compression des inégalités salariales. De façon générale, l'inégalité a plutôt tendance à suivre une évolution pro-cyclique, c'est-à-dire à aller dans le même sens que le cycle économique, par opposition aux évolutions contracycliques. Dans les phases de boom économique, la part des profits dans le revenu national tend à augmenter, et les hauts salaires, primes et bonus compris, augmentent souvent plus vite que les salaires bas et moyens, et inversement dans les phases de ralentissement ou de récession, dont les guerres peuvent être vues comme une forme extrême. Il existe cependant toutes sortes de facteurs, notamment politiques, qui font que ces mouvements ne dépendent pas seulement du cycle économique. La forte hausse des inégalités françaises entre 1945 et 1967 conjugue à la fois une forte hausse de la part du capital dans le revenu national et des inégalités salariales, tout cela dans un contexte de forte croissance économique. Le climat politique joue sans doute un rôle. Le pays est tout entier concentré sur la reconstruction, et la priorité n'est pas la diminution des inégalités, d'autant plus que chacun sent bien qu'elles ont énormément diminué à la suite des guerres. Les salaires des cadres, ingénieurs et autres personnels qualifiés progressent structurellement plus vite que les salaires bas et moyens dans les années 1950-1960, et dans un premier temps, personne ne semble s'en émouvoir. Un salaire minimum national a bien été créé en 1950, mais il n'est presque jamais revalorisé par la suite, si bien qu'il décroche fortement par comparaison à l'évolution du salaire moyen. La rupture intervient en 1968. Le mouvement de mai 1968 a des racines étudiantes, culturelles et sociétales qui vont évidemment bien au-delà de la question des salaires, même si le sentiment de lassitude vis-à-vis du modèle de croissance productiviste et inégalitaire des années 1950-1960 a sans doute joué un rôle. Mais son débouché politique le plus immédiat est clairement d'ordre salarial. Pour sortir de la crise, le gouvernement du général de Gaulle signe les accords de Grenelle, qui comprennent notamment une hausse de 20% du salaire minimum. Le salaire minimum sera officiellement indexé, partiellement, sur le salaire moyen en 1970 et surtout tous les gouvernements successifs de 1968 à 1983 se sentiront tenus d'accorder presque chaque année de très forts coups de pouce dans un climat social et politique en pleine ébullition. C'est ainsi que le pouvoir d'achat du salaire minimum progresse au total de plus de 130% entre 1968 et 1983, alors que, dans le même temps, le salaire moyen ne progresse que d'environ 50%, d'où une très forte compression des inégalités salariales. La rupture avec la période précédente est franche et massive. Le pouvoir d'achat du salaire minimum avait progressé d'à peine 25% entre 1950 et 1968, alors que le salaire moyen avait plus que doublé. Tiré par la forte hausse des bas salaires, la masse salariale dans son ensemble progresse sensiblement plus vite que la production au cours des années 1968-1983, d'où la baisse considérable de la part du capital dans le revenu national étudiée dans la deuxième partie et la compression particulièrement forte des inégalités de revenus. Le mouvement s'inverse de nouveau en 1982-1983. Le nouveau gouvernement socialiste, issu des élections de mai 1981, aimerait sans doute prolonger ce mouvement. Mais il n'est objectivement pas simple de faire progresser durablement le salaire minimum plus de deux fois plus vite que le salaire moyen, surtout lorsque le salaire moyen progresse lui-même plus vite que la production. Il décide donc en 1982-1983 de mettre en place ce qui a été appelé à l'époque le tournant de la rigueur. Les salaires sont bloqués et la politique des coups de pouce massifs au salaire minimum est définitivement abandonnée. Les résultats ne se font pas attendre. La part des profits dans la production remonte en flèche pendant la suite des années 1980, les inégalités salariales repartent à la hausse et plus encore les inégalités de revenus. La rupture est tout aussi nette que celle de 1968, mais dans l'autre sens. La hausse des inégalités françaises depuis les années 1980-1990. Comment qualifier la phase de hausse des inégalités françaises qui est en cours en France depuis 1982-1983? On pourrait être tenté d'y voir un microphénomène à l'échelle de la longue durée, une simple réplique au mouvement précédent, en notant que la part des profits n'a finalement fait que retrouver autour de 1990 le niveau qui était le sien à la veille de mai 1968. Ce serait cependant faire erreur d'en rester à ce constat, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, comme nous l'avons vu dans la deuxième partie de ce livre, le niveau de la part des profits en vigueur en 1966-1967 était historiquement élevé et résultait d'un processus de remontée historique de la part du capital entamé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Si l'on prend en compte les loyers, et non seulement les profits, dans les revenus du capital, ainsi qu'on doit le faire, alors on constate que cette remontée de la part du capital dans le revenu national s'est en réalité poursuivie dans les années 1990-2000. Nous avons vu que ce phénomène de long terme, pour être correctement compris et analysé, devait être replacé dans le contexte d'une évolution sur longue période du rapport capital-revenu qui a pratiquement retrouvé en France, en ce début de XXIe siècle, son niveau en vigueur à la veille de la Première Guerre mondiale. Il est impossible d'apprécier pleinement les implications pour la structure des inégalités de ce retour à la prospérité patrimoniale de la Belle Époque si l'on se contente d'analyser l'évolution de la part du décile supérieur de la hiérarchie des revenus. D'une part, parce que la sous-déclaration des revenus du capital conduit à sous-estimer légèrement la hausse des hauts revenus, et d'autre part, et surtout parce que le véritable enjeu concerne le retour de l'héritage, processus long qui est encore loin d'avoir produit tous ses effets et qui ne peut être correctement analysé qu'en étudiant directement l'évolution du rôle et de l'importance des successions en tant que telles, ce que nous ferons dans les prochains chapitres. Il faut ajouter à cela qu'un phénomène nouveau a débuté en France à partir de la fin des années 1990, à savoir un fort frémissement à la hausse des très hauts salaires et en particulier des rémunérations des cadres dirigeants des grandes entreprises et des rémunérations pratiquées dans la finance. Le phénomène demeure pour l'instant beaucoup moins massif qu'aux États-Unis, mais on aurait tort de le négliger. La part du centile supérieur de la hiérarchie des salaires, qui était inférieure à 6% de la masse salariale totale pendant les années 1980-1990, s'est mise à progresser régulièrement à partir de la fin des années 1990 et du début des années 2000, et est en passe d'atteindre 7,5%-8% de la masse salariale à la fin des années 2000 et au début des années 2010. Il s'agit d'une progression de près de 30% en une dizaine d'années, ce qui est loin d'être négligeable. Si l'on monte plus haut encore dans la hiérarchie des salaires et des bonus, et si l'on étudie les 0,1% ou les 0,01% des salaires les plus élevés, on trouve des progressions plus fortes encore, avec des hausses de pouvoir d'achat supérieures à 50% en 10 ans. Dans un contexte de très faible croissance et de quasi-stagnation du pouvoir d'achat de la masse des salaires et des salariés, des évolutions aussi favorables n'ont pas manqué de susciter l'attention. Il s'agit de fait d'un phénomène radicalement nouveau qui ne peut être correctement apprécié qu'en le mettant en perspective internationale. Un cas plus complexe, la transformation des inégalités aux États-Unis. Passons justement à l'étude du cas américain, dont l'originalité est précisément de mettre en jeu l'émergence d'une société de super cadres au cours des dernières décennies. Précisons tout d'abord que nous avons tout fait pour établir pour les États-Unis des séries historiques aussi comparables que possible à nos séries françaises. En particulier, nous avons représenté sur les graphiques 8.5-8.6 exactement les mêmes séries pour les États-Unis que celles présentées sur les graphiques 8.1-8.2 pour le cas français. Il s'agit de comparer l'évolution des parts du décile supérieur et du centile supérieur de la hiérarchie des revenus d'une part et de la hiérarchie des salaires d'autre part. Précisons que l'impôt fédéral sur le revenu a été créé en 1913 aux États-Unis au terme d'un long affrontement avec la Cour suprême. Les données issues des déclarations de revenus américaines sont globalement très comparables aux données françaises, bien qu'un peu moins détaillées. En particulier, les dépouillements des déclarations par niveau de revenu se font chaque année dès 1913, mais il faut attendre 1927 pour disposer de surcroît des dépouillements en fonction du niveau de salaire, si bien que les séries portant sur la répartition des salaires américains avant 1927 sont un peu plus fragiles. Plusieurs similarités, mais aussi plusieurs différences importantes, apparaissent clairement lorsque l'on compare les trajectoires françaises et américaines. Commençons par examiner l'évolution générale de la part du décile supérieur de la répartition des revenus dans le revenu national américain, voir graphique 8.6. Le fait le plus frappant est que les États-Unis sont devenus nettement plus inégalitaires que la France, et en réalité que l'Europe dans son ensemble, au cours du XXe siècle et en ce début de XXIe siècle, alors que le contraire était vrai au tout début du XXe siècle. La complexité provient du fait qu'il ne s'agit pas d'un simple retour aux réalités du passé. L'inégalité américaine des années 2010 est tout aussi extrême quantitativement que celle qui caractérise la vieille Europe autour de 1900-1910, mais sa structure est assez nettement différente. Examinons les choses dans l'ordre. Tout d'abord, à la Belle Époque, l'inégalité des revenus semble significativement plus forte sur le vieux continent. Dans les années 1900-1910, d'après les données dont nous disposons, le décile supérieur de la hiérarchie des revenus détient un peu plus de 40% aux États-Unis contre 45-50% en France, et sans doute encore un peu plus au Royaume-Uni, comme nous le verrons plus loin. Cela correspond à une double différence. D'une part, le rapport capital-revenu était plus élevé en Europe, de même que la part du capital dans le revenu national, comme nous l'avons étudié dans la deuxième partie. Et d'autre part, l'inégalité de la propriété du capital était un peu moins extrême au Nouveau Monde. Cela ne signifie évidemment pas que la société américaine de 1900-1910 correspondait à l'idéal mythique d'une société égalitaire de pionniers. En réalité, les États-Unis étaient déjà à cette époque une société fortement inégalitaire, beaucoup plus par exemple que l'Europe aujourd'hui. Il suffit de relire Henry James ou de prendre conscience du fait que l'horrible Hockney dans le luxe du Titanic en 1912 a bel et bien existé, et pas seulement dans l'imagination de James Cameron, pour réaliser qu'il existait aussi une société de rentiers à Boston, à New York ou à Philadelphie, et pas seulement à Paris ou à Londres. Simplement, l'inégalité de la répartition du capital et donc des revenus qui en sont issus était moins extrême qu'en France ou au Royaume-Uni. Concrètement, les rentiers aux États-Unis étaient moins nombreux et moins opulents comparés à la moyenne du niveau de vie américain qu'ils ne l'étaient en Europe. Il nous faudra comprendre pourquoi. L'inégalité des revenus progresse cependant très fortement en Amérique pendant les années 1920 et atteint un premier sommet à la veille de la crise de 1929 avec près de 50% du revenu national pour le décile supérieur, soit un niveau plus élevé qu'en Europe au même moment, compte tenu des forts chocs déjà subis par les capitaux européens depuis 1914. Mais l'inégalité américaine n'est pas l'inégalité européenne. On remarquera l'importance déjà cruciale des plus-values dans les hauts revenus américains dans l'euphorie boursière des années 1920. Voir graphique 8.5. Pendant la crise économique mondiale des années 1930, particulièrement violente aux États-Unis qui en sont le cœur, puis pendant les années de la Seconde Guerre mondiale, dans le contexte d'un pays tout entier mobilisé sur l'effort de guerre et aussi sur sa sortie de crise, on assiste à une très forte compression des inégalités de revenus outre-Atlantique, comparable par certains côtés à ce que l'on observe en Europe au cours de la même période. De fait, comme nous l'avons vu dans la deuxième partie, les chocs subis par les capitaux américains sont loin d'être négligeables. Pas de destruction physique due aux guerres, certes, mais de très forts chocs liés à la Grande Dépression et aux chocs fiscaux considérables décidés par le gouvernement fédéral américain dans les années 1930-1940. Au final, Si l'on considère la période 1910-1950 dans son ensemble, on constate toutefois que la compression des inégalités est sensiblement moins forte aux États-Unis qu'en France, et plus généralement qu'en Europe. Pour résumer, les États-Unis partaient d'un sommet inégalitaire moins haut à la veille de la Première Guerre mondiale et parviennent à un point moins bas au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. La période 1914-1945 est l'histoire du suicide de l'Europe et de sa société de rentiers, pas du suicide de l'Amérique.